c'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30. Bonjour à tous, bienvenue dans Nous Adorés. On reçoit aujourd'hui Bénédicte Costantino, qui s'était présenté dans un podcast qui est disponible encore sur la plateforme Radio Judaïka. Le 3 décembre, il a été diffusé, donc vous pouvez retrouver tout son parcours, mais on peut quand même dire qu'elle est gynécologue en cabinet privé, comme ça qu'on dit, à Strasbourg, et qu'elle vient nous parler aujourd'hui d'un sujet un peu délicat, mais qu'on a souhaité aborder toutes les deux, qui est le consentement. Voilà, on avait parlé de la puberté, on a parlé de la sexualité. Aujourd'hui, on va parler plus précisément du consentement. On va commencer tout de suite. Dans un article paru dans les Inrock en décembre 2019, la réalisatrice et féministe Ovidie s'interroge sur comment éduque-t-on un enfant en 2019. Cette question, elle est partout, car en fait, on a l'impression, là, avec notamment le témoignage d'Adèle Haenel en novembre 2019, de vivre un tournant de la prise de parole des victimes de violences. Ma question est simple et en même temps pas du tout. Quels conseils pouvons-nous donner aux parents d'enfants, puis d'adolescents à ce propos ?
Alors, c'est vrai que c'est vraiment une problématique centrale. Parce qu'en fait, c'est l'éducation qui nous donne en partie nos valeurs, notre façon de voir le monde et qui conditionne nos relations aux autres. Ce qui me choque, en fait, c'est que souvent, quand on parle de ces problématiques de violence, on parle d'éduquer les jeunes filles pour les protéger. Mais à mon sens, ce qui est vraiment important, c'est plutôt une meilleure éducation des garçons.
Exactement.
C'est en grande majorité les hommes en fait, qui peuvent avoir des comportements sexistes problématiques. Donc je pense que le message, il peut être simple et clair. Chaque être humain est libre de faire ce qu'il souhaite tant que cela ne nuit pas à une autre personne. Si un comportement nuit à une autre personne, il ne faut pas le laisser passer et expliquer calmement mais fermement à l'enfant, à l'ado ou même à l'adulte que son comportement est problématique et qu'il est honteux. On peut aussi, moi je trouve que c'est un bon exercice, juste inverser les rôles. C'est-à-dire poser la question, ok, tu as eu ce comportement avec quelqu'un, donc ça veut dire que quelqu'un peut avoir ce même comportement avec toi. Si la réponse est non, ben, c'est clairement que le comportement en question était anormal. Et je pense qu'on a vraiment tous notre rôle à jouer, car on est tous parfois confrontés à du sexisme au quotidien. Si au quotidien, on laisse passer des comportements sexistes, des inégalités entre les sexes, des stéréotypes de genre complètement absurdes, c'est un peu comme si on les légitimait.
Tout à fait.
Et dans des cerveaux d'ados qui sont en construction, s'ils côtoient des adultes qui ne dénoncent pas le sexisme quand ils y sont confrontés, ils peuvent l'intégrer comme quelque chose de normal et avoir par la suite des comportements problématiques.
Cet exercice d'inversion, c'est très intéressant. Il y avait tout un... À l'époque, on est un peu des dinosaures, me concernant surtout, il y avait eu tout un numéro de Marie-Claire qui avait été inversé comme ça, où les poses prises par les femmes habituellement étaient des poses d'hommes, où c'était l'homme qui entre guillemets expliquait, enfin dénonçait ce dont il était victime, etc. C'était l'homme qui portait le voile, c'était très très intéressant. Vous pouvez retrouver ça sur les sites, sur les réseaux sociaux.
Je pense que c'est toujours un bon exercice, parce qu'effectivement ça met en lumière des comportements sexistes du quotidien qui parfois nous paraissent même normales, tellement
qu'on finit par accepter,
confronté en fait. Exactement, alors qu'en fait quand on y réfléchit c'est complètement anormal.
Exactement. Bah donc Ovidie, dans cet article paru dans les Inrock, nous disait qu'elle ne savait pas trop quoi dire à sa fille. En fait, c'était un dialogue avec sa fille, donc il y a un podcast qui en découle. Les épisodes ont dû être postés entre-temps. Et elle discute parce qu'elle ne sait pas quoi dire à sa fille. Elle aussi, entre la peur que quelque chose arrive à sa fille et l'envie de la rendre autonome. Et leur sexualité, en fait, on a vu là dans un podcast précédent qu'elle n'est pas vraiment plus précoce qu'avant. Mais on parle souvent des ados qui ne font plus l'amour. Là, à force peut-être de leur dire attention, attention, ils ne font plus l'amour. Est-ce qu'on peut parler d'un retour du mythe de la virginité ?
Alors, on l'avait évoqué dans l'émission précédente, l'âge médian du premier rapport se situe vers 17 ans. Donc, il y a ce chiffre, il est stable en France depuis 25 ans environ, et on retrouve en gros le même âge des premiers rapports dans tous les autres pays d'Europe. Le mythe de la virginité, c'est un autre problème, car souvent, dans ce cas-là, c'est la famille sous des prétextes religieux ou autres, qui met de la pression en fait sur les ados pour pas qu'ils n'aient de rapport, même s'ils se sentent prêts et même s'ils en ont envie. Mais je pense que ce mythe de la virginité, c'est juste, encore une fois, essayer de faire passer la sexualité comme quelque chose de sale ou de honteux, alors que la sexualité, c'est juste naturel et source de plaisir. Je voulais aussi en profiter pour rappeler que les certificats de virginité sont strictement interdits en France et ils sont condamnés aussi par l'OMS. L'OMS, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. Alors, déjà parce que c'est discriminatoire, parce que c'est demandé pour les femmes et pas pour les hommes. Et deuxièmement, parce que cette histoire de virginité et de certificat de virginité, c'est d'un point de vue médical complètement absurde, parce que c'est impossible à définir. On peut très bien avoir eu des rapports sexuels sans pénétration vaginale, donc ne pas être vierge alors qu'on a un hymen. Et certaines femmes n'ont pas d'hymen de naissance ou il a pu se rompre lors des activités sportives, donc on peut être vierge et ne pas avoir d'hymen. Donc voilà, je pense que en conclusion, chacun et chacune est libre de faire ce qu'il souhaite de son propre corps et personne n'a ni à imposer ni à interdire quelque chose qui concerne le corps de l'autre, et même si c'est les parents envers les adolescents.
Ouais. Donc là, on est en plein dans le sujet du consentement. Parce qu'il y a nombre de jeunes filles qui disent avoir des pratiques sexuelles et qui se font insulter parfois par le biais des réseaux sociaux. Ça s'appelle le slut-shaming, il me semble. Comment est-ce que c'est possible, d'après vous, que les adolescents qui restent si coincés finalement dans leur vision d'une liberté sexuelle éventuelle et se jugent comme ça entre eux?
Je pense que déjà c'est un peu ridicule d'insulter une personne parce qu'il ou elle a des relations sexuelles. Mais c'est vrai qu'on a souvent plus tendance à entendre des insultes envers les femmes qu'envers les hommes qui ont des rapports. Là aussi, en fait, le problème, c'est un problème de sexisme, parce que pourquoi un sexe aurait droit au désir et au plaisir et pas à l'autre? C'est assez absurde. D'ailleurs, pour les personnes hétérosexuelles qui représentent la grande majorité de la population, la condition pour avoir des rapports, c'est justement que l'autre sexe ait du désir et du plaisir. Sinon, il n'y a pas de sexualité possible.
Ouais, c'est intéressant de l'exposer de cette façon-là, parce qu'il y a quand même toujours effectivement cette différence entre le Casanova et la salope, hein,
exactement,
pour dire le mot. Et même les jeunes filles entre elles ont tendance à se juger beaucoup sur ce type de choses, peut-être par peur d'avoir envie de faire la même chose, ou je sais pas, c'est souvent flou. Comment conduire nos fils à ne pas devenir ce garçon qui met une jeune fille dans une case pour se faire bien voir de son groupe? Parce que c'est souvent en groupe hein, quand même qu'on évoque
alors,
des choses comme ça.
Le problème, je pense que tout simplement, il faut le questionner sur le raisonnement qu'il y a derrière ces fameuses cases. Les cases, on en a tous malheureusement, et il y en a énormément dans la société. Mmh. Alors que l'être humain, il est profondément complexe. Donc vouloir mettre une personne dans une case avec tous les stéréotypes qui vont avec, que cette case soit liée à son sexe, à sa religion, à sa nationalité, à sa sexualité ou à n'importe quelle autre caractéristique, c'est en fait penser connaître une personne juste avec des caractéristiques très générales. Donc nos caractéristiques, que ce soit notre sexe, notre religion, notre nationalité, elles ne déterminent ni nos goûts, ni nos qualités, ni nos défauts, ni notre façon de penser. Donc quand on croit que ces caractéristiques déterminent une personne, là c'est un problème. Parce que, en gros, quand on juge une personne selon son sexe, ça s'appelle du sexisme. Quand on juge une personne suivant sa nationalité ou sa couleur du peau, ça s'appelle du racisme. Donc vraiment, il faut juste arrêter d'essayer de mettre des gens dans les cases. Les gens sont libres d'être et de penser ce qu'ils veulent et quelles que soient leurs caractéristiques.
Mais je pense que l'adolescence, c'est une période particulièrement délicate pour ça, pour assumer qui on est, parce qu'on veut appartenir au groupe, à la tribu.
Voilà, souvent, on a tendance à rester dans des cases, mais des cases qui ne nous conviennent pas forcément. Donc, il faut vraiment à la fois soit arriver à se sortir des cases qu'on essaie de nous imposer, et à la fois ne pas mettre les autres personnes dans des cases.
Ouais, tout à fait. Et je crois qu'il y a un vrai travail à faire pour nous, parents, conduire nos filles en fait sur la route de l'acceptation d'elles-mêmes et des désirs de leurs amis, de leurs sœurs, de leurs copines, et pourquoi pas de leur mère d'ailleurs, car elles se jugent en fait et elles s'insultent finalement énormément. Je sais que c'est une vaste question, mais je voulais juste un peu autre.
J'avoue, en fait, pas vraiment comprendre ces réactions, parce qu'on a tous et toutes du désir, donc j'ai juste envie de dire, et alors, c'est quoi le problème, en fait? C'est juste complètement naturel que ses amis, ses frères, ses sœurs, ses parents aient du désir. On est tous là du fait du désir de nos parents. Donc voilà, c'est vraiment pas un problème. Il faut vraiment, encore une fois, dédramatiser cette histoire du désir. On en ressent tous et c'est pas grave.
Mais c'est vrai qu'on va beaucoup valoriser quand même le désir que peut ressentir le garçon comme quelque chose de normal. Il en a envie, vous comprenez. Des fois, on l'animalise même un peu, je trouve. Et faire culpabiliser les filles de susciter, entre guillemets, le désir chez les garçons, enfin, c'est terrible ce genre de sexisme.
Bah voilà, c'est encore du sexisme, c'est-à-dire pourquoi on dirait les hommes ont du désir alors que les femmes n'ont pas de désir, elles sont le réceptacle du désir, entre guillemets, des hommes, alors que en fait... Moi, je vois au sein de mes consultations, on a vraiment il y a aussi des femmes qui me disent que leur mari ou leur copain n'a pas assez de désir. Enfin, on voit vraiment tous les cas de figure. Donc, elle me dit, il faut arrêter.
C'est plus complexe qu'il paraît.
L'homme, il va être comme ça, la femme, il va être comme ça. Non, on est juste différents et on peut avoir toutes les caractéristiques que l'on veut. Et comme dit, ça enferme les gens dans les cases parce que les garçons aussi, ils en souffrent dans le sens où s'ils n'ont pas. Beaucoup de désirs ou beaucoup de relations sexuelles, ça va être mal perçu. Alors qu'au contraire, pour une fille, c'est si elle a beaucoup de désirs, beaucoup de relations sexuelles, que ça va être mal perçu. Donc encore une fois, laissons les gens être libres de leurs désirs.
J'espère qu'on avance sur cette question.
J'ai l'impression que la parole se libère grâce aux réseaux sociaux, notamment, que voilà, on ose évoquer les choses, mais voilà, ça reste... Moi, je pense que j'ai une vision biaisée aussi, parce qu'en tant que gynécologue, bien sûr, les patientes vont l'aborder plus facilement avec moi. Mais je sais très bien que ça reste encore très difficile pour beaucoup de personnes. Après, c'est vrai que l'avantage des réseaux sociaux, c'est que on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à qui en parler. On peut se renseigner et apprendre plein de choses sur la sexualité sans qu'on nous en parle, ce qui n'était pas forcément possible avant, qu'on n'avait pas... les réseaux sociaux, qu'on n'avait pas tout simplement Internet.
Avec les biais que ça suppose aussi,
avec tous
on avait
les biais,
parlé dans l'émission précédente sur la sexualité. Donc pour revenir précisément au consentement, la question est de savoir dire oui, savoir dire non, et oser, en fonction de nos envies, de nos absences d'envie.
Alors, je pense qu'on sait tous, dans la majorité des situations, si on a envie de quelque chose ou pas. C'est assez binaire. Dans la sexualité, effectivement, ce qui est toujours central, c'est le consentement. Donc, qu'on ait envie ou pas de quelque chose, je pense que c'est pas du tout un problème, il suffit de le dire. Faut dédramatiser les choses, c'est pas parce qu'il s'agit de sexualité que ça devient subitement un problème, soit de proposer les choses, soit de répondre oui ou non selon ses envies.
Ouais, exactement. Mais c'est vrai que pour ça, il faut une certaine connaissance de son corps. Je crois, en tout cas, que bien connaître son corps ou mieux le connaître que l'autre en face, c'est quand même indispensable pour savoir dire oui ou non.
Exactement, on en parlait dans l'émission précédente pour le clitoris. En fait, souvent, ça se fait comme ça dans l'apprentissage de la sexualité, c'est-à-dire d'abord, il y a des pratiques de masturbation, c'est-à-dire du sexe tout seul. Et justement, là, ça permet déjà de voir ce qui nous procure du plaisir et après pouvoir guider son ou sa partenaire. Donc effectivement, la connaissance de son corps est importante. Après, il y a aussi une découverte du corps qui se fait progressivement à deux dans la sexualité.
Oui.
Et pour que ce soit bien vécu, il faut effectivement mettre le consentement comme condition sine qua non à tout rapport.
Oui, il faut le rappeler le plus possible. Parce
Et d'ailleurs, le consentement doit être obtenu pour le rapport en lui-même, mais aussi pour les différentes pratiques. C'est-à-dire, on peut consentir un rapport avec quelqu'un, mais pas avoir forcément envie de certaines pratiques dans un sens comme dans l'autre. Donc, il faut vraiment le consentement, bien sûr, pour le rapport en lui-même, mais après, surtout quand on veut un peu explorer son corps, sa sexualité, toujours demander le consentement de son partenaire, parce qu'on n'a pas tous, en termes de sexualité, même si c'est notre partenaire, notre conjoint, notre mari, on n'a pas forcément tous les mêmes aspirations et les mêmes envies sexuelles.
Après, entre la peur de tenter, le consentement, la méconnaissance du corps, tout ça, c'est quelque chose qui doit se vivre à deux, qui doit se discuter. On n'est pas obligé, effectivement, de nommer chaque geste pendant le rapport. Est-ce que je peux maintenant poser ma main sur toi ? Mais je pense que les ados sauront faire la différence entre le fait de nommer, de consentir et le fait de faire comme ça un inventaire de ce qui peut se faire ou pas. Parce que c'est vrai que je pense que quelquefois, c'est aussi les mots qui manquent peut-être. On peut juste prendre la main et l'enlever de l'endroit où elle va se poser parce qu'on n'en a pas envie. On n'est pas obligé toujours de parler.
Le consentement, c'est vrai que, on va dire, ce qu'il faut faire attention, c'est que le consentement, parfois, il y a des... J'ai vu un reportage où, sur le viol où, en gros, les garçons disaient « Oui, mais on voyait qu'elle avait envie. » Non, ça, c'est pas un consentement.
Ah oui, non, mais eux, ils savent.
voilà, le consentement, ouais. C'est vrai que le fait d'avoir un consentement oral, ça permet de s'assurer du consentement. Après, bien sûr...
Et même alcoolisé, etc. C'est important de le rappeler.
Exactement. Et d'ailleurs, on peut retirer aussi son consentement à tout moment. Donc, je suis d'accord qu'on ne peut pas tout verbaliser, mais si on a un doute, un nouveau partenaire notamment, ou des nouvelles pratiques, si on a un doute, je pense qu'il faut vraiment le verbaliser. Alors, et voilà, il faut aussi apprendre à se dire que voilà, la sexualité, il y a des mots pour désigner certaines choses, et que voilà, les mots sont pas sales, et au contraire, le fait d'en parler, ça va aussi... peut-être permettre de vivre les choses de manière plus apaisée.
Tout à fait. Merci Bénédicte. On va tout de suite passer à la rubrique questions d'ado.
Et maintenant, c'est l'heure de la rubrique
questions d'ado. Oui, donc nous allons consacrer une grande partie de nos adorés de ce jour aux questions d'ado et des parents d'auditeurs que je reçois pour l'essentiel sur mon compte Instagram, Julie Jam Photo, parce que oui, je suis photographe de métier. Donc on a une auditrice de 14 ans qui nous dit « Je n'ai jamais parlé de sexualité avec mes parents, dans notre famille c'est tabou ». Bon, je ne sais pas ce que je vois, enfin ce que je vois pardon, sur les sites internet me fait très peur. Comment je peux faire pour finalement ouvrir la parole dans ma famille ?
Alors effectivement, elle peut déjà essayer, si elle en a besoin, d'en parler à une autre personne. Que ce soit,
oui, il n'y a pas que les parents.
Voilà, ou une amie, un professionnel de santé, une infirmière scolaire ou un autre membre de la famille qui sera peut-être plus ouvert. Parce que, effectivement, je pense que si elle a besoin d'en parler, comme un parent ne peut pas imposer de parler de cela à un adolescent, si vraiment les parents ne souhaitent pas en parler, voilà, faut pas hésiter à se tourner vers d'autres personnes. On en avait parlé, mais je pense que ce qu'on peut voir sur les sites, dans la pornographie, ça peut effectivement des fois faire presque peur, mais voilà. On rappelle que c'est du cinéma pornographique, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Et je pense que si elle veut d'autres informations, il y a maintenant sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, beaucoup de comptes justement qui expliquent la sexualité, qui dédramatisent certaines pratiques. Et voilà, donc soit qu'elle essaye avec quelqu'un peut-être de plus ouvert dans son entourage, soit qu'elle n'hésite pas à déjà... aller sur des supports qui parlent et qui montrent une sexualité plus bienveillante que de la pornographie.
Oui, et puis si le parent n'est pas à l'aise, qu'il n'hésite pas justement à donner ce conseil-là à son ado. Voilà, moi c'est quelque chose que j'ai du mal à aborder avec toi, mais je te conseille de... Voilà. Donc merci de nous avoir donné ces pistes. On a une auditrice qui a 16 ans et qui nous demande « Le consentement, on en parle beaucoup en ce moment, mais ça veut dire quoi ? Moi, j'ai moins envie de faire l'amour que mon chéri, par exemple, et il fait la tête si je dis non. Alors j'y vais, puis ça passe. » C'est terrible, hein ?
Ouais. Alors, cette question, elle m'interpelle vraiment parce que je rappelle quand même que dans la loi, un rapport sexuel obtenu par contrainte, même si c'est une contrainte psychologique et non physique, ça peut s'apparenter à un viol. Donc, le consentement, c'est une condition indispensable dans la sexualité pour tout rapport. On a souvent tendance à imaginer que le viol s'est commis par un parfait inconnu dans une ruelle sombre, mais en fait... Dans la grande majorité des cas, les viols, ils sont commis soit par le conjoint, soit par une personne que la femme connaît. Mmh. Et dans ces récits, souvent, dans ces récits de viol, la femme dit non, mais en face, la personne soit ne prend pas en compte ce non, soit insiste. Et ça, c'est vraiment un comportement extrêmement problématique. Après, l'autre point... que je voulais aborder, c'est quand il y a une asymétrie de désir ou un problème de libido, il faut aussi se poser une question toute simple.
Oui.
Est-ce que les rapports sexuels que j'ai avec ce partenaire sont satisfaisants pour moi ? Parce que souvent, je le vois un petit peu chez mes patientes, le manque de désir, c'est souvent associé avec des rapports qui sont tout simplement peu épanouissants.
Oui, si on n'y trouve pas son compte, on ne va pas...
Exactement, voilà. Si on fait quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, enfin, on n'a pas envie de faire quelque chose qui
on apprend tout au long de la sexualité, d'ailleurs.
Exactement.
C'est pas quelque chose de figé.
La sexualité, c'est comme pour tout. Ça s'apprend et ça se réapprend même avec chaque nouveau ou chaque nouvelle partenaire. Donc... Si jamais on trouve que ces rapports ne sont pas satisfaisants, il faut juste en parler avec son partenaire pour les améliorer, changer ses pratiques, guider son partenaire si besoin, pour justement permettre d'avoir des rapports épanouissant et satisfaisant pour les deux. Et pendant l'adolescence, c'est d'autant plus important parce que là, ben, son partenaire n'a pas beaucoup d'expérience, il ne sait pas forcément comment s'y prendre,
oui.
Mais ce qui est sûr,
oui, c'est il croit savoir.
Exactement. Et si on ne lui explique pas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra jamais s'améliorer. Donc, on risque de rester très longtemps dans une sexualité qui n'est pas,
service,
qui est pas très
filles.
Épanouissante. Voilà. Pour lui et pour toutes ses oui. futures partenaires également.
C'est vrai. C'est vrai. Autant pour moi. Je pensais un peu, voilà, un peu perso. Il y a un papa qui nous dit « Mon fils a 17 ans. Et j'ai mis depuis ses 14 ans très régulièrement des préservatifs dans le placard de la salle de bain. » Je suppose qu'il ne les mange pas, donc les préservatifs disparaissent, mais pas un mot. Est-ce que je dois laisser faire ou en parler ? Il est chou, ce papa, non ?
Bon, il est très bien, ce papa. Et il peut essayer d'aborder le sujet, mais encore une fois, si l'ado ne souhaite pas en parler, je pense qu'il ne faut pas insister. Surtout que là, cet ado, il a des rapports protégés, a priori, avec préservatifs. Mmh. Donc, il ne prend pas de risque ni d'infection sexuellement transmissible, ni de grossesse non désirée. Donc, c'est vraiment pas
ouais,
un problème.
C'est joli, cette petite connivence.
Exactement.
J'aime bien. Si ça se trouve, en fait, l'ado en question, il fournit tous les potes.
Hein. C'est possiblement. Possible
alors... là, j'ai une question un peu particulière. Donc, une copine, entre parenthèses, enfin, une ennemie, disons. C'est intéressant, hein, d'ailleurs, ce parallèle copine-ennemie. Poste tout le temps des photos d'elle en tenue, disons, légère sur son compte Instagram. C'est un peu honteux, non ?
Bah, moi, je trouve pas ça honteux en soi.
Alors je précise que c'est pas moi, la copine-ennemie. J'ai oublié de dire que c'était une auditrice qui nous avait envoyé ça. C'est pas une question perso.
Non, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, bah, ils poussent justement à se montrer. Donc, on peut discuter cette problématique de vouloir exister à travers le regard des autres
oui.
et le potentiel danger aussi de tomber sur des personnes mal intentionnées. Mais je pense que les posts en eux-mêmes sur un compte privé, ils ne sont pas problématiques en soi.
Vous n'avez pas peur de la copie d'écran et de la... enfin, parce que c'est un peu ça aussi. C'est... On pense toujours au public, c'est-à-dire le post public, mais je me rends compte qu'en fait, les ados, ils font énormément de copies d'écran. Je ne sais pas si vous avez déjà parcouru le téléphone portable d'un ado, mais c'est à base de copies d'écran. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de tout renvoyer à l'autre et regarde ce qu'elle a posté, regarde ce qu'il m'a répondu, etc. Moi, c'est ce que j'ai compris dans cette question-là, c'est... finalement, ça peut circuler. Et bah, d'ailleurs, on
après,
en parlera dans une autre question.
Faire une copie d'écran sur des conversations entre deux personnes, là, c'est, je pense que ce n'est pas normal. Par contre, si cette personne, cette jeune fille, elle poste sur son compte Instagram, mm-hmm. ben, si elle n'a pas bloqué son compte, ben, elle sait que c'est public. Donc là, les copies d'écran peuvent être faites. Et si son compte n'est pas public, mais privé, ben, en fait, seulement les personnes qui peuvent faire des copies d'écran, c'est seulement des gens qui ont de base accès à son compte.
Oui, donc peut-être c'est ce genre de questionnement qu'il faut avoir. Qu'est-ce que je poste ? Qui le voit ?
Exactement.
Et qu'est-ce qu'il en fait, quoi.
Ouais.
Est-ce qu'on est sale si on aime faire l'amour ailleurs que dans le vagin ? Moi et mon copain, on adore, mais dès que j'en parle autour de moi, on me dit « Oulala, mais t'es dégueu ! » Est-ce qu'il y a un risque de maladie particulière ? Alors, celle-ci, non. je m'y attendais
non.
pas.
Alors, non, ce n'est pas honteux, ce n'est pas dégueu. Comme toujours, en sexualité, si une pratique est consentie et épanouissante pour les deux partenaires, il n'y a pas de souci. Le sexe anal, c'est vrai que c'est encore souvent tabou. Et c'est même encore plus tabou pour les hommes, ce qui est d'ailleurs paradoxal, vu que tous les hommes ont une prostate, et c'est un organe qui peut être source de plaisir quand il est stimulé.
D'accord.
Alors, la seule précaution à prendre pour le sexe anal, qu'il soit pratiqué avec un doigt, un sextoy ou un pénis, c'est éviter d'amener, après une pratique anale, des bactéries, bah, soit vers la bouche, soit vers le vagin de son ou sa partenaire.
D'accord. Donc j'avais une dernière question qui n'a rien à voir. Ma petite amie vient d'avorter, donc c'est un jeune homme de 19 ans qui nous dit ça et elle est triste tout le temps depuis. Je m'en veux, mais comment l'aider ? Alors il y a des soutiens psychologiques qui sont possibles aussi. Hein,
voilà, exactement. Il y a des soutiens psychologiques qui sont possibles dans tous les centres où sont réalisés des IVG. Et sur le sujet de l'IVG, je voulais quand même dire et rappeler qu'en France, une femme sur trois a recours à une IVG au cours de sa vie. Donc nous connaissons toutes et tous, plusieurs femmes qui ont eu une IVG.
Oui.
Donc, souvent, parce que souvent, quand ça arrive, on sent honteux, parce que c'est tabou, on a l'impression d'être la seule, alors que nous côtoyons tous au quotidien d'autres femmes qui ont également fait une IVG. Donc, effectivement, c'est jamais quelque chose de facile ou de plaisant à vivre. Donc, c'est important soit d'en parler à son entourage, et si malgré ça, on a un sentiment de tristesse qui persiste, effectivement, se tourner vers des
Faut
psychologues.
Pas le minimiser,
effectivement. Voilà, se mal minimiser, ne pas essayer de le mettre de côté, se tourner vers des psychologues qui sont formés à ces problématiques et qui sont présents dans tous les centres où sont réalisés des IVG.
Merci Bénédicte.
Merci.
Donc, il y a une dernière question qu'on avait reçue et à laquelle je vais répondre. Donc, on a créé un compte sur moi avec des photos ridicules ou équivoques. Qu'est-ce que je peux faire ? Je veux dire à tous ces jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, sur qui on crée des comptes ou sur lesquels circulent des photos inappropriées ou des remarques, etc., qu'il existe maintenant des sites et des numéros verts qu'on peut appeler. Donc ici, c'est le 0800 200 000. Et le site, c'est i-enfance.org. Et vous avez quelqu'un qui, en chat, vous répond immédiatement. Vous n'êtes pas seul. On va vous donner des solutions, on va vous aider. N'hésitez pas à faire appel, enfin, en tout cas, à vous exprimer et à vous soulager de ce que vous pouvez ressentir et aussi à voir, d'un point de vue juridique, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, rien n'est anodin, faut dénoncer, faut parler. Et surtout, les parents aussi, s'il vous plaît, restez à l'écoute. Et peut-être, plutôt que de se mettre en colère systématiquement si votre ado vient vous parler de quelque chose dont il se sent honteux ou le dérange, orientez-le, aidez-le, soutenez-le, c'est très important. Et ensuite, on va terminer donc avec ma préconisation cette semaine. C'est pas les ados qui vous conseillent, c'est moi qui conseille aux ados d'aller voir sur le consentement un documentaire très intéressant qui s'appelle « Sexe sans consentement, réflexion sur la zone grise » et qui est disponible en replay sur télérama.fr. Allez le voir, on y apprend beaucoup de choses, les garçons, les filles. Allez le voir et parlez-en après entre vous. Merci beaucoup encore, Bénédicte,
merci
pour
beaucoup.
Votre venue et puis vos réponses toujours claires, efficaces et sans tabou. Voilà, merci beaucoup.
Merci, bonne journée à vous.
Au revoir.
Au revoir.
C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis à 13h30.